Donc bonjour à tous et à toutes, donc je m'appelle Alexia Lemoine, je suis la directrice adjointe de la MIRIAD, qui est l'agence régionale pour l'innovation et l'action de développement économique du Conseil régional de Basse-Normandie. Donc nous sommes au niveau de l'agence le coordonnateur du projet Silver Normandie et nous allons engager avec l'ensemble de nos partenaires une action, et c'est une action déjà engagée, sur l'expérimentation puisque nous avons sur ce territoire beaucoup d'atouts à faire valoir pour inciter et inviter les entreprises qui souhaitent se développer sur ce marché à venir expérimenter leurs produits. Donc c'est ce qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui. Et donc, je vous remercie de bien vouloir participer à cette conférence. Pour démarrer, je vais juste rappeler en quelques mots ce qu'est Silver Normandie. Nous sommes une Silver Région. Nous avons été la première à être labellisée par Michel Delaunay. Et c'est un mouvement qui a été initié par un certain nombre d'acteurs du territoire. Donc ils sont aussi ici représentés, le pôle de compétitivité, transactions électroniques sécurisées et l'association Texap West, qui ont fait valoir auprès du Conseil régional l'intérêt pour la région de se pencher sur ce sujet de la silver economy. Quand les ministres Arnaud Montebourg et Michel Delaunay ont lancé l'initiative Silver Economy, la région a mandaté son agence, donc la MIRIAD, que je représente aujourd'hui, pour coordonner et, je dirais, et mettre en œuvre ce projet. C'est un petit rappel historique rapidement sur le déroulement des faits. On a coordonné un dossier qui a présenté les atouts du territoire, notamment les entreprises qui travaillaient déjà sur ce marché, qu'on a envoyé au ministre, et cette communication et ce transfert d'informations qui nous a amené à être labellisés, donc il y a bientôt un an, la première Silver Région. Donc, à cette occasion, la région a mis en place un comité régional de filière. Il en existe maintenant dans plusieurs régions, l'Aquitaine, les Pays de la Loire, Midi-Pyrénées par exemple, ou le Limousin. Et ce comité régional de filière a pour objectif de définir la stratégie de la région sur ce nouvel enjeu. C'est la MIRIAD qui l'anime et on a proposé à ce comité de travailler sur des grands axes de développement qui correspondent au tissu économique de notre territoire. En fait, quand on a fait l'analyse de nos forces, certes, on a une population vieillissante, on est attractif pour les seniors puisque notre proximité de l'Île-de-France nous donne une grosse attractivité pour les populations seniors. Mais on n'a pas un gros centre de gérontotechnologie comme d'autres territoires qui peut être moteur, je dirais, de cette filière. Par contre, on a un tissu économique qui est assez diversifié et qui a un intérêt fort sur la clientèle senior. Et c'est autour de ces grands axes et ces grandes forces du tissu économique qu'on a proposé au comité de filière de travailler. Donc c'est l'agroalimentaire, le tourisme, le travail sur la mobilité, les transports, l'habitat, les services à la personne et l'e-santé. Et on a créé des groupes de travail sur chaque thématique qui sont pilotés par des structures, associations de filières ou pôles de compétitivité et qui réunissent des entreprises qui ont pour objectif de faire remonter leurs besoins, l'accompagnement qu'elles souhaiteraient voir engagé et éventuellement mettre en place des projets ensemble. Il y a déjà des projets et des groupements qui commencent à se constituer. On est en train aussi de déployer une offre d'accompagnement des entreprises sur le marché. On a fait faire une étude avec la CCI d'Alençon qui est notre partenaire sur cette étude. Et on a défini quatre axes d'accompagnement des entreprises. Donc ça, c'est issu aussi des entretiens qu'on a menés avec les entreprises du territoire sur ce qu'elles voyaient du marché et ce dont elles avaient besoin. Donc les quatre axes, c'est de travailler sur une offre de Living Lab en réseau, puisque les entreprises, et c'est là qu'on va en venir tout de suite, ont un fort besoin d'expérimentation et de conforter leurs produits sur des panels ou des clientèles test. Donc on a un certain nombre d'atouts, donc on va le déployer encore plus qu'on le fait aujourd'hui. une stratégie de communication commune, donc c'est des supports de communication, c'est participer à Silver Expo aujourd'hui, et puis faire connaître les savoir-faire des industriels. C'est offrir une interface entre offreurs de technologies et utilisateurs, donc faire se rencontrer les entreprises avec les acheteurs et les donneurs d'ordre, donc qu'ils soient publics, donc les collectivités locales par exemple, mais aussi privés et tout le secteur médico-social par exemple, pour faire connaître les savoir-faire et les développements de nouvelles technologies ou nouveaux produits sur le territoire. Et c'est accompagner les entreprises sur le marketing. C'est une demande très forte aujourd'hui des entreprises d'avoir un support et de mieux connaître les tendances de ce nouveau marché et de mieux s'adapter sur la réponse à ce marché. Donc, un des axes, je viens de vous parler, c'était l'expérimentation et la partie Living Lab en réseau. Nous avons des outils et des lieux d'expérimentation qui nous convient de développer et qui répondent à une vraie demande des entreprises. Donc c'est ce qu'on va vous présenter. Et on a été labellisé au niveau européen par un label Enol qui labellise des Living Labs. Et donc on a fait labelliser le territoire, donc c'est l'ensemble de la Normandie, et territoire d'expérimentation est reconnu comme tel par l'Union européenne. Donc aujourd'hui, ce qu'on voulait vous présenter, donc c'était ces différentes offres qui sont présentes sur le territoire, de Living Lab et de structures d'expérimentation. Et pour le faire, on voulait commencer par faire témoigner une entreprise donc, qui va se présenter. Donc, il s'agit de CETEXDEV, qui est représenté par son président Frédéric Guibet, qui va expliquer pourquoi il a besoin d'expérimenter et quel est l'intérêt pour l'entreprise d'avoir aussi des lieux qui puissent répondre à ce besoin. Ensuite, Anne Zerkovitz, qui représente l'association TechSapWest, vous présentera un Living Lab à la Maison de la Domotique et d'Applications Pédagogiques qui est à Alençon. Caroline Ozouf présentera le pôle Transactions Électroniques Sécurisées, qui est un pôle de compétitivité et qui déploie aussi une offre de Living Lab sur le numérique. Et enfin, Elisa Tofoni, qui est de la Myriade également et qui travaille sur le sujet avec moi sur la Silver Economy, présentera une offre qui est proposée par une structure qui s'appelle Actalia et qui travaille plus précisément sur des panels de consommateurs et des tests dans l'agroalimentaire. Voilà, donc je vais laisser Frédéric Guibert présenter donc son témoignage sur l'intérêt de l'expérimentation pour une entreprise. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser après les interventions. Ça sera vraisemblablement plus interactif que tout regrouper à la fin et d'avoir des présentations qui se succèdent. Donc n'hésitez pas, après les présentations, à poser vos questions.
Bonjour à tous. Donc je suis Frédéric Guibet. J'ai la chance de présider la société CETEXDEV. Donc je vais détailler un petit peu ce qu'on fait dans un premier temps et voir dans quelle mesure on a vraiment besoin d'expérimentation et d'outils d'expérimentation sur notre territoire. Donc basiquement, on est une petite société, une start-up qui a été créée en 2012 et on s'intéresse aux problématiques du langage. Donc que ce soit chez la personne âgée ou chez les personnes plus jeunes, les problématiques du langage touchent environ 8% de la population en France. C'est-à-dire que... Donc basiquement, qu'est-ce qu'on trouve dans les troubles du langage chez la personne en situation de perte d'autonomie? C'est souvent des gens qui font des accidents vasculaires cérébraux, qui se retrouvent aphasiques ou qui souffrent de neurodégénérescence particulière, donc qui conduisent à une aphasie non pas transitoire mais définitive. Donc voilà, nous on fait des applications sur tablette qui permettent de faire de la communication assistée. Basiquement, qui ressemble à ça. Donc, évidemment, pour pouvoir designer ce genre d'applications, qui sont quand même destinées à des populations qui non seulement ont des troubles du langage, des difficultés d'élocution, mais en plus des troubles moteurs associés et un certain nombre des handicaps plutôt globaux, non seulement nous avons besoin d'expérimenter en amont de la création de la solution par l'intermédiaire des professionnels, mais aussi des patients, et au cours du développement, tester ces solutions. Mais une fois que ces solutions sont sorties, ça ne s'arrête pas pour autant, puisqu'il faut les expérimenter, les qualifier, les modifier en permanence, en permanence, en permanence. C'est un processus continu d'amélioration des systèmes. Nous, évidemment, on fait du logiciel, donc ça va être, il n'y a pas de hardware, c'est clairement de l'interface, rend les choses plutôt, comme on dit, user-friendly. Mais évidemment, nous avons besoin de cette offre d'expérimentation qui est proposée sur le territoire. Parce que sans les patients et sans les professionnels, on ne fera pas de bons produits, clairement. Et je parle encore une fois pour le logiciel, mais je pense que c'est à peu près vrai pour tout le monde. Donc voilà en gros nos besoins, tester, développer et retester derrière. Donc on fait une boucle vertueuse autour de l'expérimentation. Donc là, plus précisément, on va s'intéresser aux personnes qui souffrent d'accidents vasculaires cérébraux dans l'année à venir, c'est-à-dire essayer de mettre en place un système de prise en charge depuis le centre de rééducation fonctionnelle, à partir de nos applications, depuis le centre de rééducation fonctionnelle jusqu'au retour à la maison qui s'effectue entre 12 et 24 mois après la prise en charge de l'accident, pour offrir un outil unique, évolutif, qui permet de gérer, de faire de la communication assistée sur tablette tactile, tout simplement. Donc, il faut gérer les aspects rééducation et gérer les aspects communication palliative. Voilà, en gros, j'espère avoir été clair sur nos besoins à nous en tant que société, en tant que start-up innovante, sur ces sujets-là. Merci à tous.
Alors, est-ce que vous avez des questions à poser, peut-être par rapport aux produits ou à ce que fait cette entreprise? Non? Bon. Donc, on va passer à une deuxième présentation qui est celle d'un Living Lab qui est développé par Texap West. Donc, c'est Anne Zerkovitz qui va vous présenter cette offre de service.
Bonjour. Donc, je me présente, je suis Anne Zerkovitz. Je suis chargée de développement du cluster Texap West. Donc, Texap West est un cluster d'entreprises de la Silver Economy, qui a été créé à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon en juin 2011. Son objectif premier est de dynamiser la filière Silver Economy sur le territoire. Nos objectifs sont de créer un réseau d'entreprises. En fait, à l'heure actuelle, on a près de 60 adhérents qui vont des entreprises industrielles, nouvelles technologies, aménagement de l'habitat, organismes de formation, services à la personne, et sanitaire et social. Et donc, en fait, ce sont des entreprises qui travaillent dans des secteurs différents, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui ne se connaissent pas, mais qui ont besoin les uns des autres pour proposer des solutions intéressantes dans le cadre de l'objectif du maintien à domicile des personnes âgées. Notre objectif également est de favoriser l'émergence de projets collaboratifs et enfin de proposer des prestations de Living Lab, et je vais vous parler plus précisément de ces dernières. Donc le Living Lab est basé en fait à la maison domotique d'applications pédagogiques d'Alençon. Donc c'est une maison dont le projet a vu le jour en fait en 2008. Ça a pris un certain temps, hein, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de gérontechnologie et les technologies et services à la personne n'étaient pas franchement liés. Les travaux ont commencé en 2012 et elle est vraiment entrée en fonctionnement en septembre 2013. Et sur la première année de fonctionnement, on a eu plus de 2000 visiteurs, pour vous dire qu'il y a quand même ça correspond à une attente et à un besoin sur le territoire. Cette maison a trois objectifs depuis le début, hein, un objectif pédagogique, d'où son nom. C'est-à-dire que c'est un projet qui est porté par l'IRSAP, qui est l'Institut Régional des Services à la Personne, qui est un centre de formation par apprentissage, pour tout ce qui est aide à domicile, sur le terrain, mais également responsable de structure, responsable d'activité, toujours en alternance. Le deuxième objectif de cette maison, c'est l'information du grand public. Donc on organise régulièrement, une ou deux fois par mois, des portes ouvertes à tous. Évidemment, dans ce grand public, on a pas mal de seniors qui viennent s'informer, savoir quelles sont les solutions aujourd'hui qui existent, pour rester autonome le plus longtemps possible à domicile. Évidemment, dans cette maison, on a des partenaires de la région, mais pas que. L'objectif, c'est vraiment d'alimenter des pistes de réflexion chez nos visiteurs pour qu'ils puissent un petit peu savoir quels sont les types d'aménagements possibles pour pouvoir rester chez eux en toute autonomie, en confort et sécurité. Et donc, le troisième objectif, c'est d'être un outil ressource pour le laboratoire, pour le Living Lab. Alors, qu'est-ce qu'un Living Lab? Juste un petit rappel, c'est une nouvelle réponse en fait aux enjeux d'innovation qui permet d'intégrer l'usager au processus d'innovation, mais de l'intégrer dès le début, dès l'émergence de l'idée. On reconnaît en fait à l'usager des compétences indispensables à l'innovation, au même titre que celles de l'entreprise ou du laboratoire de recherche. L'usager est expert en usage, c'est lui qui sera à domicile et qui, au final, utilisera au quotidien tel ou tel aménagement, tel ou tel matériel. Et donc, il n'y a pas mieux que lui, en fait, pour dire qu'il va faciliter son usage, qu'il va faciliter l'appropriation de l'innovation, dans quelles circonstances il va l'utiliser, avec qui, et donc son apport est indispensable, en fait, à l'innovation. Et comme le disait Alexia tout à l'heure, ça correspond à une vraie demande des entreprises innovantes qui sont bien conscientes en fait du besoin de ce retour d'usage. Parce que comme ils nous disent, au niveau technologique, tout est possible. Par contre, répondre à un réel besoin, un besoin ciblé et proposer un produit qui sera utilisé, ce n'est pas forcément évident. Il y a énormément d'innovations qui restent sur les étagères des laboratoires, qui n'accèdent pas au marché ou qui accèdent de façon difficile, un peu compliquée. Donc avec cette collaboration avec l'usager tout en amont, dès le début du processus d'innovation, ça permet en fait de rendre bien plus facile l'accès au marché, de raccourcir les délais en fait. Donc le Living Lab est membre du forum LLSA, le forum des Living Labs Santé et Autonomie, qui est une organisation nationale. Il est membre de Normandie Living Lab, mais la Caroline va vous en parler après, et du Hub Silver Normandie, qui a été labellisé ENOL, dont parlait Alexia. Donc tout ça, en fait, c'est une structure cohérente hein, sur la région. C'est vraiment un Living Lab en raison, on travaille ensemble. Donc la particularité du Living Lab de TechSap West, c'est réside dans le fait qu'on a créé un club usager. Enfin, on est en train de le créer, on vient juste de le lancer. Et ce club usager devra être composé donc de personnes âgées et ou handicapées. Parce que pour une même innovation, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un jeune ou d'une personne âgée qui aurait le même handicap. D'aidants familiaux, parce qu'ils utiliseront également les matériels à domicile, et des aidants professionnels qui seront là au quotidien, qui vont aider en fait le senior à s'approprier progressivement l'innovation. Donc le fonctionnement du Living Lab, il va fonctionner de deux façons. Dans un premier sens, en fait, le club usager, via des séances d'innovation collective, fera émerger des besoins qu'il considère comme non satisfaits aujourd'hui. Et dans l'autre sens, en fait, à la demande d'une entreprise qui viendra nous voir, qui a un projet d'innovation, simplement une idée ou alors un prototype ou un produit quasi fini et qui voudra l'ajuster, l'améliorer en collaborant avec les usagers. C'est vraiment une rencontre usager-entreprise avec un vrai dialogue entre elles. Donc là, on a des premiers projets qui sont prévus. Il y en a un qui a commencé cette semaine, hein, donc c'est vraiment du tout récent. C'est une cuisine adaptée aux personnes à mobilité réduite, avec la cuisine proposée par Maï Agencement, hein, qui a un stand ici et qui est partenaire de la MDAP, qui est en fait un plan de travail à hauteur variable, des étagères à hauteur variable qui descendent, un four à porte rétractable, télécommande pour la hotte et la lumière. Et en fait, avec un groupe d'une petite dizaine d'usagers, pendant 3 heures, on a testé la cuisine, donc on a cuisiné, hein, on a fait des crêpes, fallait l'utiliser, être en conditions réalistes, sinon réelles, et avec un certain nombre de tests psychocognitifs et puis une libre parole. C'est-à-dire que vraiment, pendant 3 heures, les usagers ont dit ce qu'ils pensaient, donc les aspects positifs, hein, les points positifs, également les critiques et les suggestions. Ils avaient énormément de suggestions à faire. Il y en a même un qui a refait le plan de la cuisine en disant c'était disposé comme ça, ce serait mieux, etc. Et donc on a une deuxième séance avec une rencontre avec l'industriel où ils pourront vraiment échanger. Et l'industriel pourra répondre, enfin voilà, un dialogue constructif. Et puis tout un rapport qui sera remis à l'entreprise pour voir un peu quelles pistes d'amélioration elle peut mettre en place pour coller au mieux aux besoins des usagers. Et on a un deuxième projet qui est prévu pour le début de l'année. Et bon voilà, ce sera le début d'une longue série. Moi j'ai terminé, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Oui ? Voilà, alors c'est vrai que nous on est un cluster d'entreprises, donc on n'a pas forcément de contact direct avec les usagers. Donc la question pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est comment on entre en contact avec les usagers ? Donc en fait on a mis en place un réseau de partenaires avec toutes les structures qui travaillent au quotidien avec les seniors. Donc les CLIC, les CCAS, les structures des services à la personne, entreprises ou associations. Tout ce qui est aussi caisse de retraite, Agir Carco, et puis tous les partenaires qui souhaitaient vraiment s'associer au projet. Donc on a eu un relais vraiment très intéressant par ces partenaires qui ont envoyé des courriers, qui ont sensibilisé leurs clients, bénéficiaires, adhérents en fonction de la structure. Et on a fait un lancement du club usager en fait dans le cadre de la quinzaine de l'innovation, qui est un événement régional où on leur a proposé de venir à la maison domotique. On leur a expliqué ce que c'était qu'un Living Lab, hein, parce que c'est pas forcément évident. Et on leur a fait visiter la maison domotique, on leur a expliqué un petit peu ce que les nouvelles technologies pouvaient apporter à leur quotidien et où était leur place en fait dans l'évolution de ces technologies et qu'ils avaient droit à la parole. Parce que souvent le client achète ou n'achète pas. Mais là, ils ont le droit à la parole pour proposer des produits qui correspondront à leurs besoins. Et en fait, on avait un amphithéâtre plein de cheveux blancs. très intéressés, motivés, et les demandes d'adhésion ont continué. Puis on a eu un relais dans la presse aussi, on a eu pas mal d'appels par la presse. Enfin, il fallait une forte communication, oui. Pas d'autres questions ?
Pour compléter les propos de Anne, je voudrais insister aussi sur le fait que tout le protocole d'expérimentation va être scientifiquement mis en place. Il y a une personne qui est dans la salle d'ailleurs et qui va travailler sur la mise en place de ce protocole, qui travaille avec un laboratoire universitaire et c'est une démarche qui va être vraiment scientifiquement éprouvée avec une méthodologie qui fait l'objet de recherche. Mais
oui,
peut-être que tu peux compléter.
Je sais pas si ça marche, oui. Oui, tu as raison, j'ai oublié une partie importante, désolé Hamza. Donc en fait, effectivement, on met en place un protocole scientifique et on a recruté une personne qui a des compétences en ingénierie psychosociale et cognitive. Notre objectif, c'est vraiment que l'entreprise, quand elle passe par le laboratoire, puisse communiquer après autour de ça et en faire un argument marketing, commercial, qui est une sorte de labellisation, on ne va pas créer un label, mais de labellisation, c'est-à-dire on est passé par ce Living Lab, il y a une garantie technique, éthique, on a un comité scientifique et d'éthique aussi qui valide les projets qui se présentent à nous pour savoir si effectivement on accepte de les tester ou pas. Un comité scientifique et d'éthique qui est composé de 7 collèges avec une composante médicale, service à la personne, industrie, etc. Évidemment, on ne va pas tester n'importe quoi dans notre Living Lab quand ça sort de chez nous. Il faut que ce soit une garantie, en fait, pour le senior, comme je vous disais, technique, éthique, et que cela rende un vrai service. Et en fait, l'entreprise, pour elle, après, elle pourra vraiment l'utiliser dans sa démarche et accéder au marché.
Voilà. Des questions peut-être sur cette partie ou on passe à la suivante. Donc, Caroline Ozouf va vous présenter l'activité Living Lab du pôle TES, Transaction électronique sécurisée, qui est un pôle de compétitivité.
Donc, bonjour à tous, donc, moi je suis Caroline Ozouf, donc, je suis chargée de projet européen au pôle TES, donc Transaction électronique sécurisée. Moi je suis particulièrement en charge d'un projet européen sur la e-santé, donc un projet France, enfin, Basse-Normandie, sud-est de l'Angleterre, où on a mené une cartographie des acteurs de la e-santé en Basse-Normandie et dans le sud-est de l'Angleterre, pour mieux connaître les besoins et ce qui se fait dans les deux régions pour initier des collaborations transmanches. Donc tout d'abord, vous devez vous demander qu'est-ce que les TES. Donc je vais commencer par décomposer tout ce qui est pôle et ce qui est TES. Donc les TES, donc, ce sont les transactions électroniques sécurisées. Donc comme vous le savez, notre monde est de plus en plus connecté et interconnecté. Et donc en fait, on doit se garantir que l'homme soit et un sentiment de maîtrise et de confiance et de sécurité afin de faciliter les usages qu'il a avec les TES et améliorer le quotidien. Ensuite, qu'est-ce que le pôle ? Donc le pôle TES, c'est un pôle de compétitivité. Donc le pôle, il a été créé en 2005 dans le but de soutenir l'innovation et l'impulsion de projets collaboratifs et innovants de recherche et développement. Et donc pour réussir à mener son ambition à bien, en fait le pôle TES anime des services personnalisés pour ses membres, donc, tels que notamment des animations au niveau de la communauté de membres, de la participation à des salons, donc des salons français ou internationaux. On aide également au montage de projets, donc on fait des ateliers d'émergence, on détecte des appels à projets qui correspondent aux spécificités de nos membres et de notre tissu. On peut rechercher des partenaires et identifier des financeurs. Enfin, on sensibilise également les personnes aux transactions électroniques sécurisées en faisant des formations spécialisées ou en organisant des séminaires de décryptage. Donc maintenant, je vais vous donner quelques chiffres sur le pôle TES. Donc le pôle TES, donc, c'est aujourd'hui plus de 110 acteurs. Donc 110 acteurs, donc, c'est-à-dire des grandes entreprises, des PME, des start-up, mais aussi des centres de recherche et de formation, notamment l'université de Caen est membre du pôle TES. Où on a aussi des collectivités territoriales. Donc ça permet vraiment d'avoir tous les acteurs et qu'ils interagissent entre eux. Donc depuis la création du pôle en 2005, donc depuis 9 ans, le pôle a participé à l'impulsion de 153 projets innovants et collaboratifs, dont 10% de projets internationaux, ce qui représente plus de 480 millions d'investissements en recherche et développement. Alors, le pôle est en fait transaction électronique sécurisée, il est organisé en départements. Donc, on va avoir une première partie, tout ce qui va être les départements si je peux m'exprimer comme ça, technologique, donc avec un département vie numérique, un département e-santé et domotique, donc que je vais forcément vous expliquer un petit peu plus juste après, un département e-tourisme et patrimoine, et enfin un département e-collectivité. Donc ça, ce sont nos départements marchés, nos départements technologiques. Et ensuite, on a des départements plus orientés marché-usage, pour vraiment que ces technologies correspondent aux réels besoins du marché des utilisateurs. Donc, maintenant, je vais me focaliser sur le département e-santé et domotique, donc ce qui rentre vraiment dans le cadre Silver Normandie. Donc, en fait, ce département, il est déjà coordonné par un médecin, donc un ancien médecin qui est spécialiste d'un réseau de télémédecine et également qui anime un réseau de télémédecine appliquée aux plaies. Et en fait, l'avantage d'avoir un médecin, c'est que c'est plus facile d'avoir la perception des besoins médicaux, et nous, on peut mettre en relation avec ce qu'on peut avoir au niveau technologie dans nos universités ou dans nos entreprises. Donc ce département a 4 axes de recherche principaux. Donc on se focalise sur l'aide au maintien à domicile des personnes âgées via l'utilisation des TIC. On se focalise aussi sur tout ce qui est contribué au bien-être et au suivi des performances physiologiques. Donc là, ça va être tout ce qui est capteur, remontée d'informations, notamment tout ce qui va être température ou mouvement. On participe aussi à tout ce qui est innovation en télémédecine, donc avec notamment tout ce qui va être chariot de télémédecine, ce qu'on peut apporter dans les EHPAD. Et enfin, une focalisation sur tout ce qui est hôpital et EHPAD de demain, donc avec la mise en place toujours de plus en plus importante des technologies dans ces établissements hospitaliers. Ensuite, je vais passer au Normandie Living Lab. Donc en fait, le Normandie Living Lab, il est porté par le Pôle TES, et le Pôle TES en fait a été dépositaire du label européen du Normandie Living Lab depuis 2007, et le Pôle TES est en charge de l'animation de ce réseau. Donc le Normandie Living Lab, ça va être tout ce qui va tourner autour de l'expérimentation de nouveaux produits et services et usages qui vont être issus des idées, des projets et des produits de l'écosystème du Pôle TES. Donc en fait, ça se passe de la façon suivante, c'est qu'en fait on implique le citoyen et l'utilisateur final en fait, pour être en mesure de voir si le produit correspond bien, le design du produit, sa conception correspond bien aux réels besoins du marché. Et ce qui permet de valider la mise sur le marché du projet après avoir expérimenté tout ça. Alors, en résumé, en fait, le Normandie Living Lab, ça va permettre à la fois aux entreprises de tester leurs produits ou services, et sur un second plan, en fait, d'apporter une aide aux collectivités et d'avoir une réponse innovante aux besoins des collectivités territoriales. Parce qu'il y a vraiment deux types, on veut répondre aux besoins de l'ensemble de nos acteurs. Alors, on va proposer 4 offres dans le cadre du Normandie Living Lab. Donc, tout d'abord, des enquêtes en ligne avec l'évaluation principalement des comportements, des usages, des attentes et la réceptivité en fait de tout un panel à une nouvelle idée ou à une nouvelle offre. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être focus group. Donc, les focus group, c'est là où on va confronter les idées en fait pour évaluer le niveau d'acceptabilité d'une offre, notamment la perception des TIC pour les personnes âgées. Je peux donner cet exemple-là. Enfin, on va avoir des tests d'usage. Donc, ça va être tout ce qui va être testé, l'ajustement d'une offre avant sa commercialisation finale. Et enfin, on va avoir des projets d'expérimentation. Donc moi, je vais me focaliser maintenant sur 2 projets d'expérimentation qui sont menés au sein du Pôle TES. Donc tout d'abord, je vais vous parler du projet Domoplay. Donc le projet Domoplay, je vous ai parlé tout à l'heure du réseau TELAP. Donc c'est un projet porté par le réseau TELAP qui a été labellisé par le Pôle TES. Donc c'est un projet interrégional. Donc ça, en fait, c'est une infirmière, si vous voulez, qui est au domicile d'un patient, qui va disposer d'une tablette en 3G. Et via cette tablette, en fait, cette infirmière va être capable d'interagir avec un médecin spécialiste ou avec une infirmière spécialisée qui, elle, va être, par exemple, dans un hôpital. Donc, ça va permettre d'avoir un meilleur suivi de la plaie en ayant des conseils via l'infirmière. Donc, ce projet, ça fait maintenant 3 ans qu'il est en expérimentation. Donc, il a été expérimenté pour l'instant par 55 infirmières dans 3 centres experts référents. Donc, dans les centres experts référents, en fait, c'est là où on a les infirmières référentes ou les médecins spécialisés. Et ce projet a été mené pour l'instant sur 700 patients en 3 ans. Donc, avec des 4 cibles principales, donc tout ce qui va être les porteurs de plaies chroniques, donc par exemple des personnes âgées qui vont avoir des plaies à soigner à domicile, aussi des patients hospitalisés. Donc ça va permettre de, d'avoir une sortie précoce et qu'ils rentrent plus tôt chez eux en ayant toujours un suivi précis de la plaie. Enfin, ce projet est aussi appliqué aux patients qui sont notamment en EHPAD. Parce que les médecins spécialistes ou les infirmières spécialisées n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer, notamment dans les zones rurales. Donc là, on a vraiment l'application et l'intérêt d'un tel projet. Ensuite, on a un deuxième projet dont je vais vous parler, c'est le projet Ingrid Shape. Donc, c'est un projet de collaboration entre deux entreprises donc, qui sont membres du pôle test, donc deux entreprises situées en Basse-Normandie. Donc, la société Obdo Contact Agile, qui est une société qui va plutôt être spécialisée sur tout ce qui est capteur. Solution logicielle, et la société Bodycap, qui elle est une autre société bas-normande, qui elle est spécialisée dans les capteurs. Donc en fait, le projet Ingrid Shape, en fait, c'est une solution qui va accompagner les seniors dans leurs pratiques sportives et leurs activités quotidiennes, donc via la quantification des efforts et la réalisation de certains objectifs. Ça va concrétiser en fait le dialogue avec l'encadrant autour de la personne afin d'adapter ses activités et de pouvoir faire remonter de l'information. Donc notamment des informations sur sa température corporelle ou sur le nombre de mouvements par exemple qu'elle peut effectuer à la minute. Donc j'ai un exemple en fait de capteur. Donc ça c'est le capteur Ingrid Shape, initié par ce projet. Donc en fait c'est un capteur qui peut se mettre sur le bras. Donc c'est médical, hein, c'est vraiment tout ce qui est utilisé, il n'y a pas de problème sur la peau. Donc on le fixe avec un sparadrap et avec un smartphone en Bluetooth 4.0. En fait, sur le smartphone, on va voir remonter graphiquement le nombre de mouvements effectués à la minute et également la température de la personne. Donc ça s'inscrit sur le smartphone, donc il peut être c'est l'encadrant ou qui va avoir le smartphone. Donc les données sont ou communiquées instantanément ou alors stockées pendant une semaine, ce qui permet d'avoir un schéma et un diagnostic complet de l'état de la personne et des évaluations nécessaires. Voilà. Donc cette expérimentation, elle est en cours actuellement dans une salle de sport et elle va être prochainement mise en place dans un EHPAD. Voilà. Pour ce qui est de cette expérimentation. Après, si vous avez des questions plus précises, je pourrais vous mettre en contact avec les personnes en charge du projet, de la société Bodycap notamment, qui pourront répondre à vos questions d'une façon plus précise. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions.
Donc voilà un second exemple donc de possibilités d'expérimenter des nouveaux produits et services. Le pôle qui a initialement été très centré sur la technologie NFC et le paiement sans contact, au regard des besoins aussi de ses adhérents, a largement évolué vers de nouveaux services. Et effectivement, la notion de panel qui a déjà été exposée par la MDAP avec son club usager, là aussi le pôle développe un panel pour à mettre à disposition de ses adhérents pour pouvoir éprouver les technologies. Alors la notion de panel, on va la retrouver sur la dernière présentation, puisqu'il s'agit donc d'Actalia, une structure qui travaille sur l'agroalimentaire.
Bonjour à tous, Elisa Toffoni. Moi, je travaille à la MERIAD, qui est l'agence d'innovation de la Basse-Normandie. Je vais vous présenter très brièvement Actalia. Je vais être un peu leur ambassadrice aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas pu être présents. Donc, Actalia est un centre d'expertise en agroalimentaire. Donc, sa vocation primaire étant en fait d'accompagner les acteurs de la filière agroalimentaire en fait dans la maîtrise de la qualité et de la sécurité d'aliments. Mais c'est maintenant de plus en plus ouvert vers l'innovation et notamment en fait avec les pôles innovation et sensorielle. Donc un alliage en fait d'innovation technologique, parce que le métier de base d'Actalia est de faire de la R&D et non technologique, donc R&D et usage. Donc le pôle innovation, en fait, sa mission principale est de dynamiser et fiabiliser l'innovation dans le secteur de l'agroalimentaire, donc d'aider les porteurs de projets dans la mise sur le marché des produits en s'appuyant sur la triple expertise R&D, marketing et design. Donc un travail qui est fait surtout sur tout ce qui est conception, évaluation et test d'emballage. Et un lien aussi avec le pôle sensoriel. Donc son objectif principal est la maîtrise des qualités organoleptiques des produits alimentaires, mais aussi comprendre le comportement des consommateurs et aussi évaluer, vraiment effectuer des tests sur le goût. Et donc avec des approches consommateurs qualitatives et quantitatives et des approches analytiques. Donc ce qui est très intéressant de ce centre d'expertise agroalimentaire, c'est qu'ils ont mis en place un espace dégustateur, donc avec un panel de 12 000 dégustateurs, pour des évaluations et des tests produits à domicile et en salle. Donc Actalia dispose actuellement de 5 salles, dont 2 à Caen, dont il y a le panel le plus important, puisqu'il y a à peu près 6 ou 7 000 consommateurs, Rennes, Bourg-en-Bresse et Maison Alfort. Ils ont déjà en fait mis en place des expérimentations et des tests des produits sur le marché senior, notamment dans les maisons des retraites et aussi dans des foyers seniors. Et là, ils réfléchissent aussi à mettre en place des expérimentations à domicile. Là, pour l'instant, ils ont travaillé sur le substitut de repas. Et ils peuvent travailler aussi en fait, sur tout ce qui est produits hors alimentaire, mais électroménager, par exemple, tout produit qui peut être technologique à contact avec des produits alimentaires. Et donc j'ai mis les contacts d'Actalia Innovation, donc c'est Vanessa Régnier pour le pôle innovation et Sylvie Béril pour le pôle sensoriel. Si vous voulez en fait avoir plus d'informations sur l'espace dégustateur et pourquoi pas devenir dégustateur, vous pouvez aller visiter Actalia Dégustation, qui est vraiment l'espace qui est dédié à ça. Et j'en profite aussi pour faire de petites annonces, parce que Actalia fait aussi des ateliers de créativité et des ateliers d'information gratuits. Alors il y en a eu un sur notamment les designs et la conception des emballages, il a eu lieu hier à Caen, mais il y en aura un autre qui aura lieu à Rennes. Donc s'il y a des Bretons qui sont intéressés, je les invite à aller visiter les sites. Et puis aussi le pôle sensoriel, il fait une journée d'information les 11 décembre à Caen sur le light tracking, sur les suivis du regard. Et voilà. Donc j'ai pas, je ne sais pas si vous avez des questions sur Actalia. Je laisse Alexia conclure.
Voilà, donc on vous a présenté le panel de services qui s'offre aux services des entreprises donc du territoire et au-delà du territoire, puisque ce sont des services qui sont portés tous par des structures associatives ou privées et qui ont vocation, je dirais, à rayonner au-delà de la Normandie. Donc si vous avez un projet ou vous êtes intéressé par un de ces services, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le stand. Je voulais conclure aussi sur le fait que au-delà de ces structures et de ces réseaux d'entreprises, les territoires en Normandie sont assez investis aussi de l'expérimentation, puisque on a notamment un conseil général et une communauté de communes qui lancent aussi des expérimentations pour développer des nouveaux services auprès des usagers. Donc je parlerai plus particulièrement d'une communauté de communes dans la Manche qui est en train de mettre en place un cahier de liaison numérique. C'est une communauté de communes extrêmement rurale, avec une population âgée assez forte et avec un habitat relativement dispersé et des habitations isolées. Et donc la problématique de la communication et du transfert d'informations sur les différents services qui peuvent être amenés à se déplacer au domicile des personnes est cruciale. Mais là, ce territoire n'est pas particulier en ce sens. Hein. Mais en tout cas, ils ont décidé essayer de tester des nouveaux projets, des nouveaux produits, et ils sont en train d'organiser le déploiement d'un cahier de liaison numérique. L'objectif, c'est de toucher 1000 foyers sur ce territoire, et donc ça implique évidemment toutes les structures de services à la personne, le monde médical et médico-social, sur un territoire rural et avec des technologies innovantes voilà. Donc c'est aussi les territoires qui sont assez actifs sur l'expérimentation. Donc voilà, c'était ce message qu'on voulait vous faire passer. Si vous voulez, oui, alors une question peut-être.
Première question pour Mesdames Ozouf et Zerkovic. Y a-t-il un modèle économique et quel est-il pour les Living Labs?
Oui. Donc effectivement, on est en train de le mettre en place. Quand une entreprise viendra nous voir avec un projet à évaluer ou à co-concevoir, ce sera une prestation facturée de la part du Living Lab. Donc après, comme on travaille en concertation avec toute la région, on verra quel type de financement on peut mobiliser pour aider l'entreprise à financer la prestation. Mais ce sont des prestations facturées, oui.
Et seconde question, peut-être plutôt pour Madame Lemoine. Donc vu que votre région finance à la fois des projets d'innovation et d'autre part des centres d'expérimentation...
Alors,
les
centres d'expérimentation ont vocation à se financer sur les fonds des structures qui les portent. Donc aujourd'hui, Anne, c'est Texapwest et la CCI qui amorcent le sujet de Living Lab et qui va développer le modèle économique associé, et donc il y aura des ressources et des rentrées financières. Je ne sais pas si tu as d'autres...
Oui, voilà. En fait, quand je voulais dire que... Vous voyez, c'était pour aider au financement d'une prestation. Ça ne finance pas du tout le Living Lab ou... Non, la région ne finance pas le Living Lab.
Et le pôle test, lui, a déployé ce service dans le cadre de ses missions pour lesquelles il est financé par l'État, la région et ses adhérents qui financent la structure. Et dans les services Living Lab, il y a des services qui sont aussi source de recettes, puisque notamment l'accès au panel, par exemple, est un service payant. Voilà. Donc la région en tant que telle, soit elle est financeur de la structure et c'est sur la base de ces financements que la structure développe le service, mais de toute façon sur chaque activité, et Actalia c'est pareil, Actalia c'est des services qui sont rémunérés, donc à chaque fois sur ces missions là il y a des recettes associées.
Donc vu la richesse en dispositif d'expérimentation d'une part, et d'autre part, vu que la région doit financer des projets d'innovation.
Alors, par contre, après.
Par contre, est-ce que la région va imposer demain que tout projet qui lui est présenté, où il y a de l'innovation, ait une part de dépenses et une phase d'expérimentation?
Alors, aujourd'hui, donc les projets d'innovation et notamment les projets collaboratifs font l'objet de financement de la région. Nous, on a beaucoup de fonds européens. Alors, on est région de transition, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a des difficultés de développement, mais ce qui, au regard des fonds européens, nous amène un certain nombre de crédits et des enveloppes assez conséquentes. Donc, les fonds européens sont très, très tournés vers l'innovation. Donc, c'est ces fonds qui vont aider les projets collaboratifs des entreprises, soit entreprise-entreprise ou entreprise avec des laboratoires. Aujourd'hui, dans la façon d'inscrire ces demandes, la région ne demande pas systématiquement qu'il y ait une phase... ce que vous demandez, c'est s'il demande qu'il passe par ces outils. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais quand même, le fait qu'une entreprise qui développe un projet soit accompagnée par une structure qui fait partie, je dirais, du cercle de partenaires de la région est forcément un atout. Ça fait partie des critères d'instruction. Et aujourd'hui, nous, on travaille à l'agence avec ces associations pour aussi accompagner encore plus les projets vers la région. Et on fait parfois, pas toujours, mais parfois l'interface sur ces projets-là. Mais ce n'est pas une condition sine qua non à ce jour, parce que tous les projets ne sont pas forcément issus de pôles ou de filières. Il y a aussi des projets qui apparaissent spontanément. Il y a aussi des projets qui ont des phases d'expérimentation auxquelles les outils ne peuvent pas forcément répondre. Donc, faut pas non plus bloquer les phénomènes d'innovation. Mais par contre, le fait de passer par ces entre guillemets ces structures est forcément un avantage pour le projet en termes de financement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de l'attention que vous aurez portée à ces différentes présentations. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur le stand. N'hésitez pas également à nous solliciter si vous avez des questions plus précises. Bonne fin de journée à vous.